bonsoir et bienvenue dans cette émission. Processus électoral en RDC, dans 3 jours, soit le 16 février, la CENI va clôturer l'opération de réception des traitements des candidatures des sénateurs et des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. Cela ressort du calendrier réaménagé de la CENI publié dans un communiqué le 29 janvier dernier. Selon ce même calendrier, la Commission électorale nationale indépendante fixe au 28 avril prochain l'organisation des élections législatives nationales et provinciales dans les circonscriptions des Massimanimba au Kwilu et Yakoma au nord Ubangi où elles avaient été annulées pour fraude. Concernant les territoires de Rutshuru et Masisi dans le nord Kivu, ainsi que les territoires de Kwamout dans les Maïndombe, la tenue des élections a été fixée au 5 octobre prochain. Dans ces 3 territoires, les élections n'ont pas été organisées à cause de l'insécurité. Quelle analyse de faire de ces calendriers et aménager de la CENI? C'est l'objet du débat de ce soir. Et nous recevons dans cette émission Joseph Senda. Il est directeur des opérations à la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle. Il est au téléphone. Bonsoir, monsieur Joseph Senda.
Bonsoir, monsieur. Bonsoir.
Alidor Tshibanda ici au studio avec nous. Il est docteur en sciences politiques de l'Université de Kinshasa et enseignant à l'Université pédagogique nationale en sciences politiques. Il s'intéresse sur l'État et la démocratie. Bonsoir, monsieur Alidor Tshibanda.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Et Christian Moleka, il est analyste et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC ici aussi au studio avec nous. Bonsoir, Christian Moleka.
Bonsoir, bonsoir également à mes co-débatteurs.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Nous l'avons dit au sommaire, les dépôts des candidatures pour l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs ainsi que celle des sénateurs prend fin le 16 février prochain, selon le calendrier réaménagé de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Cependant, plusieurs bureaux de traitement et réception des candidatures ouverts depuis le 2 février dernier n'ont reçu aucun dossier à 3 jours de la clôture de cette opération. Les points avec Esther Ndelafina.
Le bureau de traitement et réception des candidatures de Mbujimayi a reçu un seul dossier pour l'élection des sénateurs et aucune candidature jusque-là pour l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Anaclet Mbuyi, président du BRTC Mbujimayi.
C'est assez regrettable. Le temps est suffisamment avancé. Qu'ils nous déposent leur dossier dans le délai, ça sera une très bonne chose.
Dans la province de Lomami, aucun dossier n'est réceptionné pour l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs, moins encore celui des sénateurs. Les secrétaires exécutifs provinciaux affirme que quelques formulaires ont déjà été retirés par les mandataires des partis et regroupements politiques. Dans la province du Sankoro, aucun dossier n'est déposé pour les élections des sénateurs. Une seule candidature au poste de gouverneur de province a été déposée mardi dernier. Il s'agit de la candidature de Justin Omokala qui brigue ce poste pour apporter les changements, affirme-t-il.
On a beaucoup de projets avec les jeunes. Nous devenons gouverneurs. L'emploi des jeunes pose problème. Il n'y a pas de route chez nous sans courant, pas d'eau, pas d'électricité.
Signalons que les candidats sénateurs payent une caution de 1 600 000 francs congolais et 10 millions pour le candidat gouverneur et vice-gouverneur. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Merci à vous Esther Ndalafina. Joseph Senda, vous êtes directeur des opérations à la Commission électorale nationale indépendante CENI. À 3 jours de la clôture de cette opération de réception et de traitement des candidatures des sénateurs et des gouverneurs ainsi que les vice-gouverneurs, quelle est l'ambiance dans les différents BRTC? S'il faut se référer au reportage que vient de nous faire notre consoeur Esther Ndalafina, On a l'impression qu'il n'y a pas engouement.
Merci beaucoup pour cette opportunité. J'en profite pour saluer mes co-débatteurs ainsi que tous les compatriotes qui nous suivent aussi bien au pays qu'à travers le monde. Et effectivement, le constat a été fait. Il y a très peu d'engouement de ceux qui voudraient être sénateurs ou gouverneurs vers le bureau de réception et des traitements de candidature. Nous osons croire que c'est notre comportement habituel, comme nous avons l'habitude de le dire, zombo le soir. Nous craignons que, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 16, que nous soyons inondés par l'afflux de ce potentiel candidat ou alors qu'il soit tenté de solliciter un prolongement de la période. En fait, nous sommes dans la logique habituelle du Congolais qui aime bien s'est précipité au dernier moment, à la dernière minute, pour pouvoir pour déposer leur dossier dans nos différents RTC. Quant à nous, comme vous l'avez dit, nous avons réaménagé le calendrier parce que celui publié en date du 26 novembre 2022 a connu des petits retards dans la mise en œuvre de certaines activités prévues. Il fallait donc réaménager le calendrier, ce qui a été fait vers la fin du mois de janvier. Nous avons repris les activités prévues au premier calendrier, à la seule différence que les dates ont changé. Mais dans tous les cas, celui qui était intéressé à la chose devrait le savoir déjà à partir du premier calendrier de l'an 2022 qu'on devrait se préparer à telle ou telle chose. Mais nous constatons qu'en fait, il y a une très faible affluence des candidats, de potentiels candidats vers nos RTC.
Oui, plusieurs questions se posent au sujet de ces élections, hein, notamment à ce qui concerne les provinces du Nord Kivu et celle de l'Ituri, province sous état de siège. Monsieur Joseph Senda, comment la CENI envisage l'organisation, n'est-ce pas, de ces élections dans ces deux provinces sous état de siège?
Je crois qu'il y a eu un communiqué de la CENI, je n'ai pas des dates en tête, qui a apporté des précisions en ce qui concerne l'élection de gouverneurs et de sénateurs dans ces partis. Alors, puisque ces deux provinces sont encore sous état de siège, il est évident qu'on ne peut pas procéder à l'élection des gouverneurs. Par contre, les sénateurs ne posent pas problème, mais pour ce qui est des gouverneurs, je ne pense pas que l'on puisse procéder à l'élection d'un gouverneur en Ituri ou en Nord Kivu. Mais quant aux sénateurs qui ne sont pas concernés par la situation d'état de siège, ceux-là pourront bien être élus par les assemblées provinciales de ces deux provinces.
Oui, Monsieur Joseph Senda, dans une lettre adressée au CEP de la CENI Nord Kivu, le gouverneur militaire de cette province informe les CEP que les députés provinciaux de cette province nouvellement élus se préparent à organiser, n'est-ce pas, la session inaugurale. Alors que selon lui, on devait, n'est-ce pas, attendre que l'on puisse organiser les élections dans les deux territoires, notamment Masisi et Rutshuru, pour que le quorum soit atteint. Alors maintenant, il demande au CEP quelle est l'attitude que lui, en tant que gouverneur, doit adopter face à cette situation. Doit-il permettre à ce que les députés puissent tenir leur session inaugurale qu'est-ce qu'il doit faire?
Bon, c'était quelque chose qui relève de la loi. Ceux qui gèrent les aspects juridiques pourront bien nous aider quant à ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, puisque certains sont élus déjà depuis un temps, et que normalement, selon la loi, il y a une date prévue d'installation des assemblées provinciales avec un bureau définitif, puisqu'il y a des dispositions de la loi à ce sujet, faut-il s'y soumettre et recevoir ou valider les mandats de ceux qui sont là, quitte à compléter par la suite? Je ne sais pas si ça peut se faire en deux temps. Ça, c'est la loi qui le dit. Je ne sais pas si ça peut se faire en deux temps, que dans un premier temps, on valide les mandats de ceux qui ont été élus, et en deuxième temps, on valide les mandats des autres. Je dois sincèrement avouer que je n'ai pas de connaissances sur le plan du droit. Mais je peux me dire que si ceux qui sont élus constituent la majorité, ils peuvent, à mon avis, siéger, d'autant plus que, selon le règlement intérieur, le quorum sera régulièrement atteint, dans l'hypothèse où tout le monde répondrait à tous les appels, et l'Assemblée provinciale peut fonctionner, à mon avis, sans problème. Quitte à ce que, au moment opportun, nous puissions organiser l'élection des députés provinciaux et même des députés nationaux, aussi bien du Nord Kivu que de l'Ituri. Donc, pour moi, c'est la loi qui peut nous aider à savoir exactement ce qu'il faut faire. Mais si nous nous en tenons à ce que je viens de dire et que le quorum est requis pour la tenue de certaines activités, je crois que ceux qui sont présents répondent aux critères du quorum et ils peuvent sans problème. Maintenant, quant à la validation, est-ce que la loi prévoit qu'il est possible de valider ceux qui viendraient après? Bon, à ce moment-là, je crois que ça ne poserait aucun problème. Et d'ailleurs, on le voit, lorsqu'il arrive que quelqu'un remplace un autre pour diverses raisons, qu'il soit validé sans problème. Je peux considérer que dans ce sens-là, ceux qui viendront après devront être ici validés par ceux qui les auront précédés et les choses vont marcher sans problème. Donc, je ne pense pas que ça pourrait vraiment constituer un obstacle si j'ai pas, parce que les deux se feront en deux temps différents. Je ne pense pas.
Mais il faut aussi préciser que les députés provinciaux, n'est-ce pas, de ces deux provinces sous état de siège, pour le moment, ne pourront que participer à l'élection des sénateurs. Et après, bon, ils n'ont pas de fonctions pour le moment parce que il n'y a pas de gouvernement provincial. C'est des provinces sous état de siège.
Oui, c'est vrai. Il n'a pas que l'exécutif. Bon, il faut avouer que il faut bien que cette question soit débattue de manière très posée, notamment par ceux qui ont en tête les dispositions de la loi sur la libre administration des provinces, ceux qui ont la maîtrise des dispositions constitutionnelles, pour savoir exactement comment une assemblée provinciale pourra fonctionner dans l'hypothèse où. C'est-à-dire que il peut arriver que l'exécutif provincial soit soumis au contrôle de l'assemblée provinciale, mais que celle-ci n'a pas le droit de le démettre, par exemple, d'autant plus que ce n'est pas une émanation de l'assemblée provinciale. On peut considérer cela comme un moindre mal, c'est-à-dire que les exécutifs provinciaux de ces deux provinces travaillent sous le contrôle d'une assemblée provinciale de laquelle ils ne sont pas une émanation. Donc la limite sera qu'on ne pourra pas les démettre, par exemple, mais on peut les contrôler.
On peut les contrôler pour quel effet, quel résultat?
Non, mais comme on contrôle tous les exécutifs provinciaux, enfin tous les exécutifs provinciaux par les assemblées provinciales.
Bon,
on fait des recommandations, mais la possibilité de démettre est quasiment nulle parce qu'ils ne sont pas une émanation.
Bon, on se rappelle que lorsque l'état de siège a été décrété dans les deux provinces, les assemblées provinciales n'ont pas fonctionné. Et n'avaient pas la possibilité de fonctionner.
Comment ça?
Apparemment, on va assister à la même situation.
Qu'est-ce qui les avait empêchés de fonctionner?
Ben, c'est parce que, comme vous le dites, il n'y a pas d'institution émanant de ces assemblées provinciales et donc
les assemblées n'ont pas
la possibilité de les contrôler.
Non, on peut les contrôler sans forcément les démettre.
Ça, on n'a pas assisté à cela.
Non, mais on peut les contrôler. Moi, je ne vois pas d'inconvénient qu'on contrôle une assemblée et un exécutif provincial par l'assemblée provinciale avec des recommandations à l'appui, mais avec la limite qu'on ne peut pas les démettre parce qu'en fait, ce n'est pas une émanation. Mais contrôler leur action au quotidien, moi, je crois qu'on peut contrôler.
Ah, on le dit par rapport à l'expérience passée, hein, par rapport à la législative passée. Merci beaucoup, Monsieur Senda. On garde encore dans cette émission, Monsieur Alidor Tubanda. Vous êtes docteur en sciences politiques de l'université de Kinshasa et enseignant à l'université pédagogique nationale en sciences politiques. Vous intéressez sur l'État et la démocratie. Comment vous réagissez à ces calendriers réaménagés de la CENI?
Bon, qu'est-ce que je peux dire de ça? Je retiens que la CENI, en tant qu'organe organisateur des élections, elle peut être confrontée à des impératifs d'ordre interne ou externe qui peuvent la pousser à revisiter son organisation au niveau des élections par rapport à ces impératifs-là. Donc, je ne trouve pas assez d'inconvénients dès lors que ça n'a pas d'impact direct sur le déroulé des élections. À ce niveau-là, je ne trouve pas assez de problèmes. Mais le problème, moi, je reste très dubitatif sur le processus lui-même. C'est la préoccupation majeure qui me hante et qui me préoccupe davantage. Les élections de gouverneurs, les élections des sénateurs, c'est un mode de scrutin qui nous ramène à ce que nous avions, qui avait été déjà élagué depuis belle lurette, les élections censitaires, où c'est l'argent qui parle, où sans moyens, on ne tient pas compte des discours, les programmes n'intéressent pas les électeurs, les grands électeurs, mais c'est la carte ou l'argent de celui, ou le porte-monnaie de celui qui est candidat, qui les préoccupe davantage. Et j'ai suivi tout à l'heure qu'il y avait des préoccupations parce que les candidats n'arrivent pas à se présenter dans le BRTC pour déposer leur candidature.
À 3 jours de la clôture.
À 3 jours de la clôture. Et le co-débatteur venait de souligner un élément important. Il a dit, nous sommes habitués à Nzombo le soir. C'est vers la date limite où tout le monde se précipite pour déposer les candidatures. Mais moi, j'ajoute un autre élément, c'est ils sont dans le pourparler actuellement, dans le pourparler au niveau des états-majors politiques pour se mettre d'accord d'abord sur les candidats.
Les pourparlers à 3 jours de la clôture.
Bon,
le politicien, avant, n'est-ce pas?
Peut-être comme on venait de mettre en place une référence qui est chargée non seulement d'identifier la majorité, mais il s'occupe aussi de l'harmonisation des candidatures au niveau de la grande plateforme politique qui est l'Union Sacrée pour permettre à ceux qui se mettent d'accord qui va être où et qui va faire quoi. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, ça doit se lire au niveau des négociations entre les potentiels candidats, parce qu'ils n'ont pas encore déposé les candidatures, les potentiels candidats et les grands électeurs. Ils doivent se mettre d'accord, chacun doit être sûr qu'il sera élu après avoir recruté ou négocié son siège. Je crois que c'est autour de ces deux éléments qu'il est possible de voir ou d'analyser ces retards. Mais au niveau du calendrier électoral, je trouve que la CENI est mieux placée pour nous expliquer et justifier les raisons qui l'ont poussé à ce report.
Alors, beaucoup d'observateurs sont unanimes sur le fait que si les provinces de la RDC peinent à connaître leur épanouissement, c'est notamment à cause de la gouvernance qui a toujours été appliquée dans ces différentes provinces. Et on a souvent, n'est-ce pas, tendance à expliquer cela par la qualité des animateurs des institutions provinciales issues souvent des élections décriées. Et à quelle élection devons-nous aspirer? N'est-ce pas, cette fois-ci, pour espérer avoir des élections à même de donner des animateurs capables de relever les défis de ces différentes provinces?
Bon, le problème de qualité, c'est un problème sur lequel il faut encore beaucoup discuter. Mais moi, je trouve que le premier problème qu'il faut poser et résoudre, c'est d'abord le problème de choix des gouverneurs ou des sénateurs. Bon, je parle d'abord de gouverneurs. Il y a une étude qui a été menée par un ancien ministre provincial.
La qualité.
Oui, oui. Il y a un ministre provincial qui a peint la situation qu'il a vécue comme ministre provincial. C'est un professeur d'université de l'UNIKIN. Il a publié un ouvrage très intéressant, La gouvernance chez Ferral. Et dans cet ouvrage, le ministre démontre que vous n'avez pas la majorité.
Oui.
C'est le professeur Mambi, je crois. Vous n'avez pas la majorité au Parlement. Vous décidez. Je prends mon cas, je ne connais pas ceux qui sont élus. Je suis du Kassai, le matin je me pointe à Tchikapa pour dire je veux devenir le gouverneur de la province. Parce que dans ma poche, je dispose de $100,000. Prenons un cas comme ça. Et je ne connais pas le parti majoritaire, je dois recruter ou négocier mon siège de gouverneur avec les députés provinciaux issus de partis politiques différents. Et cela va m'amener dans un premier temps à construire une majorité. Et cette majorité va jouer sur le chantage. À chaque fois où je ne saurai pas les soudoyer, où je ne mettrai pas les moyens à leur disposition, ils peuvent créer une crise pour disposer de l'argent. Nous l'avons vécu à Kinshasa, où à tout moment, c'est le président...
Non, je prends le cas
de Kinshasa, toutes les provinces. C'est le président qui attaque le gouverneur, le gouverneur mobilise sa majorité issue de plusieurs partis politiques et il a créé sa dynamique et c'est autour de cette dynamique qu'il prétend gérer. Donc, le temps de gérer la province, il n'en aura pas parce qu'il aura plus de temps et de moyens pour mettre à la disposition de cette majorité qu'il a montée de toutes pièces. C'est là. Le nœud du problème, c'est d'abord le choix des électeurs, le choix des gouverneurs. C'est ainsi que je milite pour que, au lieu que le gouverneur soit l'émanation des assemblées provinciales, même si on peut garder la formule, mais je voudrais qu'on procède comme on le fait pour le Premier ministre. Donc, on identifie une majorité, qu'elle soit homogène ou coalisée, et à partir de cette majorité-là, on identifie, on prend les leaders de la majorité pour qu'il ait l'ascendance sur ses députés, et on fait de lui le gouverneur. Maintenant, là, nous allons créer une concordance ou une cohérence entre la volonté populaire manifestée au sein de la majorité qui a été choisie ou élue par le peuple et l'exécutif provincial. Là, il y a possibilité de croire que ces gens vont se mettre au travail, ils peuvent répondre aux attentes du peuple. Même si la nature humaine ayant ses faiblesses et ses qualités, ça peut nous amener à ce que ça pourrait nous amener. Et cela pourrait probablement nous amener à un changement tant soit peu qualitatif que la réalité à laquelle nous assistons aujourd'hui. Parce que le gouverneur passe le temps à gérer leur pouvoir avec les députés provinciaux au lieu de se mettre au travail par rapport aux attentes de la population. C'est le nœud du problème. J'ai suivi le président de la République. Il a témoigné cette préoccupation-là dans plusieurs de ses interventions. Je crois que on pourrait éventuellement y arriver, même si le moment ne s'y prête pas pour toucher à la Constitution, parce que nous sommes en guerre. Je ne vois pas comment on peut revisiter la Constitution pendant qu'une partie du territoire est amputée.
Merci Christian Moleka, analyste coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Quelle analyse vous faites de ces calendriers réaménagés de la CENI?
Moi, je crois que ce réaménagement s'explique du fait qu'il y a eu quelques retards depuis les élections du 20 décembre, des retards notamment liés à la fois à la publication des résultats, mais également à quelques écueils qui justifient ce report-là. Donc autant on a dû repousser pour la publication des résultats des législatives, autant ça a impacté le calendrier et donc les étapes suivantes. Il était donc logique que la CENI puisse harmoniser, tenant compte des légers retards qui se sont ressentis, et donc mettre un calendrier qui respecte maintenant les délais. Ça peut se comprendre. Pour les provinces en conflit, le fait que la CENI pousse les élections au mois d'octobre laisse penser qu'ils prennent en compte la dimension sécuritaire, qui était d'ailleurs pour eux-mêmes un indicateur important lorsqu'ils ont mis en place la feuille de route. Et donc, si la situation sécuritaire évolue octobre, ça veut dire le deuxième semestre de l'année, il est fort probable que ces élections puissent se tenir, tenant compte de l'évolution de la situation sécuritaire. Et donc, c'est un aménagement, de mon point de vue, assez acceptable, qui tienne compte des contraintes à la fois temporelles, mais également des contraintes sécuritaires liées à l'évolution de la sécurité sur le terrain.
Et vous, en tant que politologue, comment on peut envisager le fonctionnement des assemblées provinciales dans des provinces sous état de siège?
C'est un cas atypique. Parce que l'état de siège, c'est de l'exception. Et donc, l'exception n'a pas pour nature d'être permanent. Malheureusement, nous avons une exception qui s'est fait permanente. C'est ça l'autre cas. L'exception, c'est pas 2 ans. Nous sommes en train d'aller vers une exception dans la durée et qui donc va impacter le fonctionnement régulier des institutions. Mais pourquoi? Parce que les assemblées ont été pensées comme une régionalisation politique qui permet d'avoir deux points d'impulsion de développement différents de l'État central. Et donc, à ce titre, vous avez un pouvoir exécutif et un organe délibérant de contrôle qui sert donc de parlement au niveau local. C'est ça l'équilibre qui a été mis en place. Dès que l'instant où vous coupez la tête d'exécutif en amenant un exécutif militarisé, qui ne répond pas en termes politiques aux injonctions d'une assemblée dont il n'est pas l'émanation, eh bien, vous faussez l'équilibre du régionalisme politique. Et c'est pour cela d'ailleurs que la Constitution a prévu que ce soit des mesures d'exception. Ça veut dire inscrit dans une temporalité courte. Parce que on est supposé être dans un cas très limité dans le temps, et donc très vite on revient dans une forme normale. Notre problème, c'est que cette exception s'est inscrite durablement dans la durée et donc impacte le développement de province. Le président de la République lui-même a promis de lever progressivement l'état de siège, donc on devrait revenir plutôt sur la normalité, qui est d'avoir un exécutif qui est l'émanation de l'Assemblée, et c'est dans cette émanation-là qu'ils ont le pouvoir de contrôle. Donc si on garde les militaires qui ne répondent pas à l'Assemblée provinciale, on fausse toute la dynamique de contrôle qui devait être mise en place, puisqu'ils ne répondent pas politiquement de ceux-là qui ne l'ont pas nommé et qu'ils répondent essentiellement des régimes d'exception qui sont d'ailleurs des régimes de limitation de pouvoir, y compris pour les provinciales.
Oui, on se rappelle que après les élections de 2018, avec la fraude, les irrégularités, n'est-ce pas, qui avaient été constatées, toute la classe politique ainsi que les forces vives de la nation avaient recommandé qu'on passe des scrutins indirect au scrutin direct en ce qui concerne les élections des gouverneurs et des sénateurs. Mais on se rend compte que la législature est passée et s'est terminée. Il n'y a pas eu, n'est-ce pas, d'initiative dans ce sens. On peut l'expliquer par quoi? Est-ce que c'est... Il y a des impératifs politiques qui peuvent expliquer cela, ou alors on a estimé que ce n'était pas une priorité?
À la fois politique et technique, parce qu'on dit scrutin direct, il faut dire que ça a un coût financier. Nous avons déjà des élections qui font 1,5 milliard, avec des scrutins directs et des scrutins indirects. Si on augmente le nombre de scrutins directs, ça veut dire qu'on va consulter toute la population pour un scrutin direct, ça augmente des coûts, à la fois en termes d'impression de bulletins, à la fois en termes de temps de vote, à la fois, tout ça c'est un coût financier qu'il faut ajouter dans le processus électoral. L'élection indirecte, ça veut dire c'est 44 personnes qui se mettent dans une salle, 48 pour Kinshasa, qui se mettent dans une salle. On a besoin de 48 bulletins, ou en cas d'une machine à voter, donc d'une capacité de vote qui se fait en un jour, et donc des coûts financiers un peu moindres. Il y a cette dimension financière, il y a la dimension constitutionnelle, ça veut dire qu'il faut modifier la constitution, parce qu'il faudra changer les dispositifs sur le vote, il faudra changer la loi électorale, il faudra, et donc ça importe également le côté législatif, et ça demande un travail de fond. On sait, lorsque le débat au Congo commence sur la révision constitutionnelle, c'est des brèches que beaucoup n'aiment pas ouvrir, parce que ça donne de possibilités à aller sur d'autres champs qu'on n'a pas prévus, et donc politiquement c'est également un débat délicat. Après, moi je pense que le problème, il n'est pas au niveau du changement du mode de vote. On changerait le mode de vote qu'on répercuterait ailleurs cette corruption-là. Ça veut dire, le candidat gouverneur qui doit corrompre, permettez-moi l'expression, qui doit monnayer 48 députés, lorsqu'on mettra le scrutin direct, eh bien on aura un report de cet exercice-là au niveau de l'électorat primaire. Regardez comment se passent nos élections déjà sur le terrain. Les députés monnayent les voix. Donc les problèmes, ce n'est pas vraiment le mode de scrutin. Le problème, c'est la corruption. C'est l'éducation électorale, c'est la qualité d'homme qu'on met au niveau de parlement, c'est notre système politique. Vous avez des députés provinciaux qui vendent des parcelles pour aller en campagne, qui se font menayer par une population parce qu'ils vont acheter des ballons, des vareuses, et qui pensent qu'ils doivent se refinancer par des scrutins indirects. Et donc les élections sénatoriales et des gouverneurs, ça sert à un refinancement des élus qui ont dépensé sur le terrain. C'est ça le système. S'il n'y a pas de la corruption en amont, ça veut dire, si déjà, pour qu'on te vote comme député, tu dépenses moins, tu te rembourses pas ce que tu as dépensé dans la campagne. Quand tu as dépensé pour la campagne en vendant une maison à 100 000 $ pour aller sur le terrain, jeter des ponts et faire de ceci, eh bien, le député se dit, je me refais ma maison en sanctionnant cette fois-ci sénateur et gouverneur. Et donc, c'est un problème plus systémique qu'il faut voir en profondeur sur comment nous percevons les élections depuis les élections à la base. Et ça ne se limite pas uniquement à un changement de mode de scrutin, parce que le problème, il est plus profond. Ensuite, c'est la qualité du débat politique. Il y a un professeur politologue, d'ailleurs, Bob Kabamba, qui a fait une très bonne étude depuis 2011 sur le profil sociopolitique des élus. D'où viennent nos élus? Et si vous faites ce travail sociopolitique, vous verrez, notamment au niveau des assemblées, que vous avez énormément de gens qui viennent pour la première fois en politique. Très peu d'hommes d'expérience politique. Avec le renouvellement d'ailleurs, on a beaucoup de gens qui viennent des secteurs socio-professionnels, qui viennent du secteur très peu libéral, enseignants et ainsi de suite, commerçants, qui forment les assemblées provinciales. Et donc, qui n'ont pas une vraie culture politique, à la différence des assemblées nationales et du Sénat, où on a des libéraux, des gens qui ont des expériences de gestion qui reviennent un peu plus souvent. Donc on a un problème d'origine socio-professionnelle des élus, qu'il faut également voir, et qui justifie que la culture politique chez nous étant ce qu'elle est aujourd'hui, que nous avons ce comportement-là. Il faut travailler sur la culture politique, il faut travailler sur les origines socio-professionnelles des élus, vous identifier. Après, il faut travailler sur le fait qu'il faut éduquer à partir de la population pour que nous n'ayons pas ce cycle de corruption qui ne fait que se monter de la base vers le haut.
Merci. On va bien écouter les réactions des auditeurs, qui sont en train d'appeler pour donner leur point de vue. Monsieur Joseph Senda, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kisangani dans la province de la Tchopo.
C'est le maître de deux Toé la Tokinga depuis Kisangani dans la province de la Tchopo. Mon analyse sur les calendriers me pousse à conclure que la CENI travaille dans un contexte très exceptionnel. D'une part, les circonstances sécuritaires à l'Est n'ont pas permis à la CENI d'organiser les élections dans ces deux territoires du Nord Kivu le 20 décembre dernier. Et je m'étonne de constater la cirage car la CENI à ces jours de réussir ces mêmes élections au mois d'octobre 2024. D'autre part, je comprends qu'un serre aménagement prouve les siens car la CENI de faire bénéficier tous les Congolais de leurs droits électoraux à travers lesquels ils se choisissent les représentants parlementaires. Mais malgré ces efforts louables de la CENI, je me demande également de ce que sera la même CENI au cas où la question sécuritaire dans ces deux territoires ne change pas, vu la lire dont prend cette même situation à ces derniers temps. Aussi, la conséquence des élections législatives qui auront lieu le 28 avril puis le 5 octobre sur le gouvernement à venir, entendu que tout est fonction du poids politique des compétiteurs dont les partis politiques et les groupements politiques.
Monsieur Joseph Senda.
Merci bien pour la question, mais j'ai difficile à comprendre pourquoi il parle en termes d'échec, d'autant plus qu'il s'agit de quelque chose qui ne relève pas de la compétence de la CENI. Si le compatriote suit l'actualité, il se souviendra que lorsque la CENI a sorti son premier calendrier, il y avait des contraintes, notamment des contraintes d'ordre sécuritaire. Et si la CENI a renvoyé les élections dans ces deux parties-là un peu plus loin, c'est dans l'optique optimiste, si vous voulez, c'est en se disant qu'au fil des temps, les choses vont s'améliorer et que nous pourrons nous servir à mesure d'organiser les élections. Ça ne relève pas de la compétence de la CENI que l'on dise la CENI a échoué. La CENI n'a pas échoué, la CENI travaille dans un environnement donné et s'acquitte de ses obligations, de ses attributions en tenant compte de beaucoup d'éléments qui parfois ne dépendent pas de lui. C'est au gouvernement de réunir les moyens. Nous avons au moins 145 territoires. Sur les 145 territoires, nous avons organisé dans 143, globalement, bien sûr, exception faite à Kwamout, Masisi, Rutshuru, et les deux que nous venons de débarquer, et Maswanimba, Mbayakoma. Donc ça nous fait 5 territoires de moins sur 145, sur le 145. Donc nous avons été dans les 140 territoires et nous avons organisé les élections parce que nous étions en mesure de le faire sans problème. Donc les territoires qui posent problème, en fait, ce sont les trois. Même Assimanimba n'a pas un problème de sécurité. Il y a comment non plus. Ça, c'est d'autres problèmes qui sont intervenus. Donc ce n'est pas quelque chose à considérer comme un échec dans le chef de la CENI, d'autant plus qu'il ne s'agit pas de quelque chose qui relève de la compétence de la CENI. Alors j'en profite pour dire un mot important, parce que ceux qui m'ont procédé y ont fait allusion d'une manière ou d'une autre. Le gros problème que nous avons aujourd'hui, c'est la moralisation et des électeurs et de la classe politique. Nous avons besoin d'être moralisés, quels que soient les modes que l'on mettra en place. Tant qu'on aura cet homme congolais tel qu'il est, on n'avancera pas. Donc le problème plus profond qu'on le pense, le malaise plus profond qu'on le pense, nous réfléchissons en termes d'antivaleurs. Nous avons suffisamment intériorisé ça au point qu'on croirait que les antivaleurs sont devenus des valeurs. Donc c'est ça la grande question. Et vous vous souviendrez que dans la note de la CENI à un message de la CENCO, il avait été dit que cette organisation sociétale s'occupe de la moralisation, de l'éducation civique de la population, parce que c'est là que vient le problème. Vous venez de voir ce que nous avons vécu. La CENI va vers les compatriotes, recrute les compatriotes, mais la classe politique nous envoie des activistes de partis politiques qui viennent étudier pour comprendre les systèmes et tricher, alors que de bonne foi, la CENI est allée vers la population. Elle ne va pas importer des gens qui viendraient de ne sais pas où pour travailler dans le bureau de vote. Elle n'ira que vers la population. Mais si la population a un déficit sur le plan de la morale, eh bien, nous souffrirons de ça.
Donc, justement, la question que l'on se pose, c'est celle de savoir quel mécanisme la CENI met en place pour, n'est-ce pas, prévenir les irrégularités ainsi que la fraude qui avait été constatée en 2018 par rapport à ces élections des sénateurs et des gouverneurs.
C'est ce que je disais tout à l'heure. Je prends l'exemple simple. De tous les temps, nous avons la cascade de formation et nous recourons aux Congolais. Nous sommes allés vers les Congolais. Nous avons recruté les Congolais pour qu'ils nous accompagnent dans la tenue des élections. Mais en ignorant que parmi eux,
Le politique a introduit des activistes des partis politiques. Tu venais comme tout le monde à la recherche du travail. Il n'était pas écrit sur leur front qu'ils étaient des activistes de partis politiques. C'est a posteriori que la CENI se rend compte que ses compatriotes à qui elle a offert du travail étaient en un certain nombre des activistes de partis politiques. Donc à ce moment-là, vous ne pouvez vraiment rien faire. Et ceux qui les ont envoyés, et eux-mêmes, ils ont péché par rapport aux normes normales de gestion d'une société ou des élections. On mettra en place des systèmes. Eh bien, quelque part, le Congolais trouvera toujours un moyen pour contourner ça, parce que l'immoralité est en lui. Et vous serez surpris a posteriori que tel système n'a pas marché. Mais en réalité, c'est ça. Il faut que nous arrivions à prendre conscience de ça, comme on nous dit ceux qui soignent les fous. Ceux qui soignent les fous nous disent, le début de la guérison d'une folie, c'est quand la personne se rend compte qu'elle ne peut pas se promener nue, qu'elle ne peut pas manger les ordures. Ça, c'est le début. Donc, tant que le Congolais ne se rendra pas compte qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, qu'il croira que c'est normal, nous demeurerons de fous.
C'est aussi
un travail. Nous produirons ce que produisent les fous.
C'est aussi un travail qui incombe à la CENI de pouvoir sensibiliser.
La CENI a une direction de sensibilisation, selon les moyens. Mais les organisations de la société civile avec en tête la CENCO, parce qu'elle dit tout haut qu'elle veille à la formation civique et à la moralisation de la société. Tous ceux qui ont ce souci-là et qui œuvrent dans la société, dans la société civile, je veux dire, ils doivent avoir à cœur de nous moraliser, de moraliser l'homme congolais.
Merci.
Pour qu'il se démarque des antivaleurs. Merci. Et que la société puisse aller de l'avant.
Merci. Monsieur Alidor Tshibanda, vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Bukavu, dans le sud Kivu.
Accent Tshingamou Olivier, activiste du Forum des nationalistes depuis Bukavu, dans la province du sud Kivu. Le calendrier aménagé de la CENI montre que l'organisation des élections en République démocratique du Congo est un processus complexe et souvent perturbé par des problèmes tels que la fraude et la sécurité. En fait, la clôture de l'opération de réception des candidats dans 3 jours indique que les préparatifs pour les prochaines élections sont en cours, mais les retards et les annulations dans certaines circonscriptions montrent également les défis auxquels est confrontée la CENI dans son mandat d'organiser des élections libres, transparente et équitable. Il est important que la CENI et les autorités congolaises prennent des mesures pour assurer la transparence et la sécurité lors des élections à venir.
Monsieur Alidor Tshibanda.
Oui. Il soulève la question de la fraude. Le co-débatteur de la CENI venait de soulever une autre question liée à la moralisation de la vie politique. Je me dis, la politique... En politique, on n'y va pas comme enfant de cœur. On se bat pour le pouvoir. Je me rappelle en deuxième graduat, le professeur Samba disait les avantages que génère le pouvoir, l'argent, le femme, la capacité de décider sur A,
la puissance,
pour l'amener à se soumettre à ce que vous allez dire, pour amener B à se soumettre à ce que A va dire, donc la décision, sont des atouts qui amènent chacun à se battre pour conquérir le pouvoir. J'ai eu l'avantage d'être à l'intérieur du pays pendant le processus électoral. Le premier élément, on dit le ventre affamé n'a point d'oreille. J'ai vu comment les matériels de la CENI ont été transportés. Mais il n'y avait aucune sécurité. J'ai vu des policiers sans armes, pieds nus, peut-être en babouche, avec le pantalon en tenue, peut-être la chemise débrayée, on se demandait si on pouvait croire à l'autorité de l'État à travers un tel policier sans armes, en train d'acheminer le matériel de la CENI. Et en cours de route, des gens comme ça, peut-être à vélo, nous avons vu même à travers les réseaux, mais ça j'ai vécu, parce que j'étais à l'intérieur pour des raisons personnelles. J'ai vécu des choses qui m'ont poussé à me poser une question très importante sur la problématique de la sécurisation de matériel de la CENI. La CENI doit y réfléchir en harmonie avec le pouvoir public. Au cas contraire, nous assisterons aux fraudes auxquelles on a fait face en 2023. Et aujourd'hui, beaucoup sont d'accord et se disent si on doit continuer à encourager un tel processus qui nous amène à une oligarchie clientéliste. Parce que si vous posez des questions à ceux qui prétendent être élus et ceux qui ont compéti, qui ne sont pas élus, personne ne vous dira qu'il a joué. Et même la CENI, lorsqu'ils calculent leur seuil électoral, moi je salue ça parce que je travaille sur la consolidation de l'édification de la nation. Je trouve que c'est un élément très important. Lorsque on peut se retrouver être élu avec des voix, vous êtes élu national avec les voix de quelqu'un qui est à Kasumbalesa, qui est à Uvira, mais vous êtes peut-être à Chikapa, à Mweka ou ailleurs, ou à Luebo. Mais vous vous retrouvez être élu grâce aux voix des compatriotes des provinces très lointaines de la vôtre. C'est un élément très important, ou de la circonscription très éloignée de la vôtre. C'est un élément très important dans la cohésion nationale. C'est un
élément important, certaines personnes décrivent la manière dont les calculs étaient, dans l'opacité totale.
Donc, cette immoralité ne concerne pas seulement la classe politique. L'immoralité concerne et l'organisation des élections au niveau de la structure chargée de l'organisation des élections, la CENI, qui doit être repensée de fond en comble. Parce qu'il faut, quand on veut de la transparence doit se manifester à tous les niveaux. Au niveau, moi j'ai assisté aux gens qui étaient incapables. Aujourd'hui, nous sommes pendant le comptage électoral. Qui peut brandir les PV tels que prévu par la loi? Personne. Personne ne peut vous amener tous les PV avec des signatures de témoins. C'est pour dire que l'organisation pose encore problème. Et moi, je suis de ceux qui pensent que nous devons repenser notre manière d'accéder au pouvoir. Nous sommes une communauté plurielle. Repensons notre démocratie. Il y a plusieurs types de démocratie. Il y a la démocratie consensuative qui peut s'adapter à notre culture et à notre environnement. On peut beau critiquer, parler de la moralité, mais si il y a problème de moralité, c'est que la moralité concerne et le gouvernant et le gouverné.
Parce que
les dirigeants sont le produit de cette société-là. Voilà. Donc le problème de sécurité, si vous le permettez, concerne et la CENI et le pouvoir public qui doivent réfléchir.
Merci.
Pour voir comment les matériels de la CENI, qui sont des matériels précieux, doivent être gardés. Et deuxième élément, nous devons, pour la problématique de la moralité, nous reposer tous la question si nous devons continuer avec un processus qui nous amène à des conflits, qui construit une oligarchie clientéliste, parce que je me dis, hier c'était le PPD qui était majoritaire, aujourd'hui comment nous pouvons expliquer que c'est l'UDPS qui est majoritaire? Donc toutes ces questions-là nous amènent à repenser notre système électoral.
Merci.
Le problème c'est réfléchir sur le système lui-même.
Merci, Alidor Kibanda. Merci beaucoup. Christian Moleka, vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis le Kassai Central.
Benjamin Tia, moi je vous appelle depuis la province du Kassai Central, précisément dans la ville de Kananga. Concernant les calendriers réaménagés publiés par la CENI, moi je trouve que ce calendrier en soi n'a pas de problème. Pourquoi? Parce que ce dernier démontre la ferme détermination de la centrale électorale d'assurer l'inclusivité et la participation de toutes les provinces à ce scrutin. Néanmoins, il y a à craindre la répétition des événements qui ont émaillé les processus électoraux depuis son déclenchement, même lorsque ces élections seront tenues. Déjà à ce stade, nous pensons que l'issue de cette situation ne sera pas bonne parce que le gâteau sera partagé lors des élections des gouverneurs selon les poids politiques et cela conduira à l'imposition de certains individus sans profil ni leadership à la tête de nos provinces et c'est la population qui en paiera les prix. Même aux législatives dans les provinces concernées, rien n'est à espérer car il y a déjà à boire et à manger.
Christian Moleka.
Je crois qu'il y a deux problèmes qui sont abordés. Il y a le problème du calendrier. Effectivement, je suis d'accord avec lui. Il y a des pesanteurs qui ne dépendent pas de la CENI, notamment la situation sécuritaire. J'ai rappelé que lorsque la CENI a produit sa feuille de route, il y avait des pesanteurs financiers, législatifs, légaux et sécuritaires qui dépendent par exemple du gouvernement. Là, nous avons des opérations militaires à Saké. La CENI ne peut pas aller déployer les élections dans une zone de combat. Donc il y a des pesanteurs qui ne dépendent pas de lui. Ensuite, il y a des problèmes qui dépendent de lui. Le report des résultats, le fait qu'on a dû, face à la contestation, invalider des candidats, puis prendre le temps de répondre à quelques requêtes, ça a impacté les calendriers. Et donc, ça justifie ce léger aménagement. Là, il n'y a vraiment pas de problème de mon point de vue. Sur la question de la qualité des décideurs qu'on choisit au niveau de province, c'est une question de fond. En fait, nous avons l'habitude au Congo de de récompenser la loyauté sur les compétences. C'est vrai, dans tout le pays, dans tous les pays du monde, il y a cet équilibre entre compétences et loyauté. Mais dans notre style de leadership politique, c'est la loyauté et parfois au détriment de la compétence. Et lorsqu'on se limite à récompenser uniquement la loyauté politique, sans mettre au même diapason l'existence de la compétence, eh bien, nous avons des politiciens récompensés à la tête des provinces, mais qui n'ont pas de projet de société, qui n'ont pas un management de développement, alors qu'en tant que gouverneur, il est à la tête d'un management de développement pour la province.
Mais c'est voulu ainsi par la classe politique, n'est-ce pas?
C'est systémique. Ça veut dire que on va faire un débat de société chez nous. Ailleurs, les élections à tous les niveaux se préparent. Ça veut dire on s'improvise pas gouverneur. On appartient à une famille politique qui a un projet de société de gouvernance à tous les niveaux. Et donc, lorsqu'on a gagné une majorité, on a un projet qui existe, on vient l'exécuter avec les profils qui existent. Chez nous, ce n'est pas le cas. Les candidats aux élections, on le recrute 3 mois avant les élections. Parfois, il n'était pas membre des partis politiques parce qu'il faut remplir les listes, on prend des gens. Les candidats gouverneurs, c'est un type qui a peut-être beaucoup d'argent, qui vient, qui est adoubé politiquement et qui postule parce qu'il amène un peu plus de ressources. C'est pas forcément celui qui porte la vision du parti. Et après, les critères de sélection, nous avons des critères qui tiennent pas compte prioritairement de la compétence, de l'excellence, mais davantage de la loyauté.
Merci.
Et donc ça impacte le développement. Il nous faut nous remettre en question. Mmh. Et j'insiste sur la culture politique. Nous avons une culture politique qui ne favorise pas le développement. Et il faut que nous nous remettions en question pour qu'on n'aboutisse pas à ce genre de résultats-là.
Merci. Nous sommes à la fin de la mission. On va commencer à conclure. Monsieur Joseph Senda, je rappelle que vous êtes directeur des opérations à la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle. Qu'est-ce qu'on peut espérer à l'issue de ces élections? Les élections des sénateurs et gouverneurs.
Je voudrais rappeler quelque chose de très important. Je ne vois pas pourquoi est-ce que les gens ont l'habitude d'escamoter ça. C'est que la CENI organise les élections selon un cadre légal. Qui dit cadre légal parle loi. Qui dit loi parle parlement. C'est le parlement qui est dicte de loi. Et la CENI travaille en fonction de ces lois-là.
Là, vous faites allusion à quoi?
Je fais allusion au fait qu'on parle de l'opacité alors que c'est un problème d'incompréhension. Les gens n'ont pas compris ce que ça veut dire, seuil de représentativité, comment ça se calcule. C'est un problème d'incompréhension, c'est pas un problème d'opacité. La CENI n'a aucun intérêt à rendre opaque. La CENI a appliqué.
On a compris.
Voilà.
On a compris.
Ça, c'est très important. Les gens n'ont pas compris et jusqu'à présent, beaucoup ne comprennent pas ce que ça veut dire, seuil de représentativité, seuil de recevabilité, tel que défini par le législateur, pas par la CENI.
Voilà, ce n'est pas le débat d'aujourd'hui, malheureusement.
Ok, donc oui. C'est très important que les gens comprennent que la CENI travaille selon un cadre légal qui ne vient pas d'elle.
On a compris. Alors, okay. Qu'est-ce qu'on peut espérer à l'issue de ces élections de gouverneurs et des sénateurs, à votre avis, enfin, vous, membre de la CENI?
Nous avons sorti notre calendrier. Nous allons, au moment opportun, faire le constat. Et à ce moment-là, l'autorité décidera de la suite. C'est un calendrier. L'élection des sénateurs, des gouverneurs, c'est dans la loi. La loi électorale le prévoit. Donc, nous sommes tous soumis à cette loi électorale-là. Mais nous avons sorti notre calendrier. Au moment opportun, nous dirons, voilà, au terme de, voilà ce que nous avons obtenu comme résultat. Et une suite sera donnée à ça. Mais nous sommes obligés de nous soumettre à la loi parce que l'élection des sénateurs et de gouverneurs relève de la loi électorale.
Et si d'ici le mois d'octobre, parce que vous souhaitez organiser des élections qui n'ont pas été organisées dans les territoires qui connaissent l'insécurité, si d'ici le mois d'octobre il n'y a toujours pas la sécurité dans ces territoires, qu'est-ce que la CENI envisage?
Nous irons vers le pouvoir public, nous allons dire, nous ne sommes pas en mesure d'organiser parce que, donc il ne relève pas de la CENI de dire on n'ira pas là-bas. À moins que ce soit le Parlement qui dise ne le faites pas.
Merci.
La CENI ne pourra pas décider, moi je ne ferai pas ça. Non.
Merci.
Ça ne relève pas de ses compétences.
Merci Alidor Tshibanda, docteur en sciences politiques de l'Université de Kinshasa et enseignant à l'Université pédagogique nationale. Vous vous intéressez sur l'État et la démocratie. À votre avis, ça peut être quoi l'enjeu politique de ces élections dans les contextes du moment dans ces pays?
Quelles élections?
Les élections des sénateurs et des gouverneurs.
L'enjeu, c'est la conformité aux dispositions constitutionnelles et légales. Nous devons combler nos institutions. Le Parlement ne peut fonctionner au regard de la constitution actuelle qu'avec 2 chambres. Nous n'avons qu'une seule chambre qui venait d'être installée. Il faut une deuxième pour permettre à ce que la navette de loi soit respectée et que le fonctionnement régulier des institutions soit assuré. Mais l'enjeu majeur pour le moment, et pour l'avenir de notre pays, c'est questionner notre processus électoral. Hein? Et je suis d'avis que nous devons encore repenser notre culture politique, mais il faut renforcer l'État. Je travaille sur ça et je voudrais que l'institutionnalisation de l'État permettrait à ce que tout le monde se mette sur la ligne. Tant que l'État fonctionne sous un angle de monopole éclaté, où chacun qui a une parcelle de pouvoir prétend que l'État devient lui, nous risquons de croire que les élections, c'est une assurance, alors que c'est un problème. Et si vous permettez, vous me donnez une minute, j'ai fait une nouvelle démonstration. Pourquoi je demande à ce qu'on questionne notre processus électoral? C'est parce que nous assistons au combat pour avoir une loi électorale, nous assistons au combat pour avoir des animateurs au niveau de la Cour constitutionnelle et au niveau des structures organisatrices des élections. Ça voudrait dire que l'amont pose problème et en aval, nous n'aurons pas un résultat qui reflèterait réellement la volonté du peuple.
Merci Christian Moleka, analyste et coordonnateur de la dynamique de politologue de la RDC. Vous, en tant que politologue, qu'est-ce qu'on peut envisager au cas où, au mois d'octobre, n'est-ce pas, la sécurité n'est pas établie dans le territoire des Kwamout, Masisi, Rutshuru? Qu'est-ce qui est envisageable sur le plan politique?
Probablement un parlement amputé de quelques élus. On l'a déjà eu dans le passé. Probablement également un report du calendrier de la CENI avec des élections qui pourront aller vers 2025, puisque personne ne peut prédire ce que sera l'évolution sécuritaire d'ici octobre. On souhaite bien évidemment que ce soit optimiste, mais personne ne peut le prédire, et donc si la situation n'évolue pas, il est probable soit qu'il y ait un nouveau report, soit un parlement amputé de quelques élus.
Est-ce qu'il y a possibilité de permettre à ce que les élus de la législature passée puissent continuer à siéger? Est-ce que c'est possible?
Non, je pense pas.
Tout est fonction des options politiques.
Je ne pense pas, parce que la législature est liée à un délai, à un temps, et le souverain populaire doit être consulté, parce qu'on ne peut pas prolonger de soi-même. Je crois que fondamentalement, il faudrait résoudre cette problématique de guerre pour revenir à la normalité. Nous sommes dans une situation de la normalité liée au fait que nous traversons un moment également assez particulier.
Merci,
c'est la fin. Je finirai peut-être en disant que l'homme est un être culturel et que si nous voulons changer les problèmes du Congo, il faut refaire la culture. C'est important. Il y a une culture d'État, il y a une culture démocratique et nous avons tout perdu aujourd'hui.
Ok, c'est par là qu'on finit cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Monsieur Joseph Senda, Monsieur Alidor Tchibanda et Monsieur Christian Moleka. Merci également à toute l'équipe qui était avec moi, Kelly Nkouté, Pierre Diassinois, Jonathan Fouanani, Clément Chimanga, Hervé Voka, sous la supervision de Martin Sebujangwe. À la présentation, Guy Maté. Merci une fois de plus et bonne suite du programme sur Radio Okapi.